Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Très grand bonjour à toutes et à tous, il est 11h passé de quelques secondes sur Radion, voici Wagon Livre, votre émission littéraire, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission qui aujourd'hui, tout comme la semaine dernière, s'inscrit dans le cadre du 24e printemps des poètes. Alors au sommaire de notre émission, cette fin de matinée sur Radion, nous serons en ligne avec Alain Quévès. Alain Quévès qui est auteur, qui a obtenu en 1997 le prix Prométhée pour un recueil de nouvelles, Le geste manqué de l'amant. Mais Alain Quévès est aussi l'éditeur qui a créé en 2004 la maison d'édition Rhubarbe, installée à Auxerre, qui s'intéresse essentiellement aux genres courts, récits, nouvelles bien sûr, mais également poésie. Et à cette occasion, Alain Quévès nous présentera les dernières publications de poésie de sa maison d'édition. Il nous parlera des recueils d'Emmanuel Favier, d'Alice Mendelssohn et d'Emmanuel Le Cam. Alain Quévès est également un contributeur régulier de la revue de poésie Des Charges, revue de poésie créée en 1981 par Jacques Morin. Et le dernier numéro de la revue Des Charges, le numéro 193, est sorti en ce mois de mars 2022, 164 pages avec un grand nombre d'illustrations en couleur. Et au programme de la revue Des Charges, Alain Quévès propose un entretien avec Joël Brière, qui a créé, il y a un peu plus d'un quart de siècle maintenant, une maison d'édition associative qui s'appelle La Renarde Rouge et qui est établie dans Lyon, à Véron, à 10 km au sud de Sens. Et Joël Brière va arrêter effectivement son activité d'éditrice. Certes, elle va continuer ses fonctions d'illustratrice et d'auteur. En tout cas, coup de projecteur sur cette maison d'édition La Renarde Rouge qui publie de beaux livres sur un beau papier et qui sont toujours des livres magnifiquement illustrés et qui offrent une poésie tendre, intime, parfois cruelle. C'est donc au programme de Wagon Livre. Et puis, autre intervenant dans notre émission, nous aurons le plaisir d'entendre Bruno Doucet. Bruno Doucet qui est poète et éditeur de poètes. Il a pendant de nombreuses années dirigé la prestigieuse maison d'édition Segers, qui avait été créée par Pierre Segers. Et puis Bruno Doucet a décidé de voler de ses propres ailes, puisque en 2010, il a créé sa propre maison d'édition, les éditions Bruno Doucet, qui d'ailleurs, dans le cadre du Printemps des Poètes, propose une anthologie établie par lui-même et Thierry Renard et qui s'intitule « L'éphémère 88 plaisirs fugaces ». Je rappelle que cette année, le Printemps des Poètes a retenu cette thématique de l'éphémère. Et puis Bruno Doucet nous présentera aussi des recueils de poèmes inédits qu'il a fait paraître depuis le début de ce mois de mars, des poèmes inédits de René Guy Cadou et de son épouse Hélène Cadou, l'occasion de revenir sur une poésie magnifique, une poésie végétale de René Guy Cadou, qui est mort en 1951 à l'âge de 31 ans. Un beau programme pour ce Wagon Livre spécial Printemps des Poètes. On commence notre émission par une pause musicale et juste après, nous donnerons la parole à Alain Quévès. Merci d'être avec nous. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Les repas sont des îlots faits pour deux, des châteaux pour le vie toujours levé. Personne ne peut entrer. Une garçonnière privée de chambre d'enfant. Le temps, personne n'est invité à la folie, passionnément.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je l'avais annoncé au sommaire de notre Wagon Livre, aujourd'hui spécial 24e printemps des poètes. Nous sommes en ligne avec Alain Quévès. Bonjour Alain.
Bonjour Yannick.
Alors Alain Quévès, Alain, nous nous connaissons depuis maintenant de nombreuses années. Je me permets de te présenter à celles et ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore. Ancien professeur documentaliste, auteur. Auteur remarqué et récompensé en 1997 par le prix Prométhée pour un recueil de nouvelles intitulé « Le geste manqué de l'amant ». Alain, tu continues toujours d'écrire, contributeur aussi de la revue de poésie Décharge dont nous parlerons dans quelques minutes. Que devrais-je ajouter ? Grand lecteur, amoureux de littérature et éditeur, puisque tu as créé en 2004 une maison d'édition qui a maintenant, j'allais dire, un rayonnement national et même francophone, en Belgique, en Suisse, et peut-être à d'autres lieux de la planète
mondiale.
Les éditions Rhubarbe, donc créées en 2004 par toi-même et qui s'intéressent aux genres courts, récits, beaucoup de recueils de nouvelles, mais également de la poésie. Et Alain, je suis très heureux de te donner la parole pour mettre en valeur quelques récentes publications de poésie aux éditions Rhubarbe. Alors, on commence par Emmanuel Favier.
Tout à fait. Alors, Emmanuel Favier, c'est une jeune auteure qui s'est révélée au grand public il y a 5 ans avec un roman, « Le courage qu'il faut aux rivières », qu'a suivi ensuite une biographie romancée de Virginia Woolf, ça s'appelait Virginia, et qui est en fait la vie de Virginia Woolf avant qu'elle devienne écrivain, donc de sa naissance jusqu'à la parution de son premier texte. Donc ces deux ouvrages sont aujourd'hui en poche. C'est dire qu'ils ont eu un très grand succès. Mais Emmanuel Favier est avant tout poète, et j'avais d'ailleurs publié chez Rhubarbe un recueil qui s'appelle Le Point au Soleil il y a 10 ans, donc avant qu'elle ne publie et qu'elle ne publie ses romans et qu'elle ne devienne très très célèbre. Et là, je la republie pour un recueil qui s'appelle Le Soleil vient d'en face. Alors la poésie d'Emmanuel Favier, c'est une poésie d'inspiration, on va dire, ou de tradition anglo-saxonne, c'est-à-dire un peu narrative, autobiographique, voire journalistique. Par exemple, il y a un poème sur une errance dans les rues de Paris le lendemain de l'attentat de Charlie, une rencontre en librairie qui ne se passe pas aussi bien que prévu, ou ça peut être un paysage traversé, une rencontre fortuite dans la rue. Et ce qui est troublant avec cette poésie, c'est le côté décalé, hésitant, bancal de celle qui dit « je », puisque c'est autobiographique, et qui ne semble jamais être à sa place dans ce monde, qui ne sait pas quoi dire, comment réagir, comment comprendre ce qu'elle voit et ce qu'elle décrit ou ce qu'elle raconte. Il y a un sentiment d'étrangeté du réel, qui fait la force du recueil et qui est un petit peu l'idée même qu'on peut avoir de la poésie. Il ne s'agit pas de se cacher le monde. Le monde, il est ce qu'il est, et on ne va pas parler d'autre chose, des oiseaux et des petites fleurs quand le monde est devant nous. Mais c'est vraiment la façon de le voir, de le ressentir et ce que ça fait résonner en nous. Alors, à l'opposé d'Emmanuel Favier, je vais te parler de Alice Mendelssohn avec un recueil qui s'appelle « L'érotisme de vivre ». Pourquoi à l'opposé ? Parce que c'est une auteure qui publie son premier recueil chez Rhubarbe et elle a 96 ans. Ce sont des poèmes écrits de 1949 à aujourd'hui. Et tout est dans le titre, hein, l'érotisme de vivre, c'est l'énergie. L'idée maîtresse, c'est que la vie est belle et qu'il ne faut pas bâcler de la vivre. C'est un plaisir amoureux, érotique. Alors quand on pense que ces poèmes ont été écrits au début des années 60 ou dans les années 50, on mesure tout le côté révolutionnaire de cette poésie que personne ne connaissait. Mais plus globalement, au-delà de l'érotisme ou de l'amour, c'est aussi le plaisir des sens. Hein, le goût du chocolat à la cantine de la maison de convalescence où elle a fait un séjour. Ça peut être le soyeux des tissus, ça peut être l'image rassurante des serviettes bien pliées, empilées. Ça peut être un jeu, un poème que j'aime beaucoup, un jeu où, avec son petit-fils, elle joue à la dinette, elle joue à manger. À manger tout en ne mangeant rien du tout, bien sûr.
Oui.
Et c'est vraiment c'est à la fois drôle, émouvant et érotique d'une certaine manière. Alors c'est une poésie, oui, qui est espiègle, qui est gaie, qui est pleine de force, même quand le corps grince, parce que à 96 ans, tout ne va pas toujours aussi bien qu'on voudrait. Mais il faut savoir qu'adolescente, Alice a échappé de très peu à la rafle du Veldiv, que son père n'en est pas revenu. Alors Alice Mendelssohn est d'origine juive, et peut-être que cette expérience initiatrice, lui a donné le devoir d'être heureux, d'être en vie. Quand on a échappé de si près à l'horreur, on n'a pas le droit de pignocher avec la vie de la bâclée. Alors ce spectacle, alors ce recueil, en fait, a été monté sur scène en début février au Théâtre d'Auxerre par Catherine Ringer et Violaine Bonneux. Donc Catherine Ringer, c'est la moitié d'Enita Mitsuko.
Oui.
Alice Mendelssohn était dans la salle et ça a été un triomphe parce que cette vieille dame indigne était aux anges. Et c'est l'image, en fait, c'est l'image de l'ange gardien ou de la fée clochette qu'on peut retenir d'elle. Cette petite voix en nous qui nous dit que même si tout n'est pas parfait, il faut le goûter, il faut goûter la vie jusqu'au bout et y prendre plaisir. Alors c'est un recueil qui est coédité par le Théâtre d'Auxerre, hein, j'ai oublié de préciser.
Donc une belle leçon de vie et quelque part un recueil qui est un antidépresseur contre le mauvais temps de la pensée actuelle, par exemple.
Ah oui, oui, et puis quelque chose qui vous met le sourire aux lèvres et dans la tête à chaque poème. Hein, une poésie un petit peu naïve aussi, c'est... Oui, quelque chose de rieur et d'espiègle. Espiègle, c'est peut-être l'adjectif qui lui convient le mieux.
Alors, peux-tu redonner les références de ce recueil de poésie ?
Alors, L'érotisme de vivre, Alice Mendelssohn, coédition Rhubarbe, Théâtre d'Auxerre.
Alors, d'autres publications, toujours aux éditions Rhubarbe ?
Oui, alors, peut-être dans la même veine de la naïveté, même si c'est un peu différent, c'est Isabelle Minière, ça s'appelle « Mon tour du monde ». Donc Isabelle Minière est une auteure qui a publié pas mal de romans pour adultes, mais aussi pour la jeunesse, et que les lycéens de Bourgogne ont pu rencontrer il y a quelques années, parce que son roman « La première marche » était précisément en lice pour le prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne. Alors, Mon tour du monde, par contre, c'est la première incursion d'Isabelle Minière en poésie. Et là aussi, je suis très fier qu'elle ait choisi Rhubarbe pour cette première déambulation poétique. Alors, on est dans une ambiance de conte de fées, de poésie naïve, désarmante, parfois à la limite de la comptine, mais... Comme souvent avec les comptines d'ailleurs, il y a une étrangeté inquiétante. On sent des drames sous-jacents, la peur, la solitude. Par exemple, il y a un poème, je t'en dis quelques mots. Cette nuit, mon père est venu me voir. Vraiment, c'est gentil de sa part. 20 ans après sa mort, il ne m'a pas oublié. Il y a aussi une autre série de poèmes sur les mains. Alors les mains du père, de nouveau, de la mère, de l'instituteur, d'une vieille tante, des mains d'aveugle. chevelées, jeunes, actives, qui chantent, qui dansent, mais aussi qui rigolent. C'est une poésie, on va dire, à hauteur d'enfant, pour grandes personnes. Donc, Mon tour du monde, de Isabelle Minière. Et le dernier recueil dont je vais te parler, c'est Parcours d'ombre, de Emmanuel Le Cam. Parce que, parfois, la poésie, elle devient plus âpre. Elle témoigne d'un combat, d'un corps à corps vital. Quand le corps, justement, est en souffrance, l'écriture, les mots, ils deviennent comme une base arrière pour remotiver les troupes, les convaincre de vivre malgré tout. Alors là, la poésie, elle devient un refuge, une forteresse. Hein, c'est les mots M-O-T-E-S contre les mots M-A-U-X. Et tout peut s'écrouler, mais on ne m'enlèvera pas la force des mots, la force d'écrire toute la nuit, et puis d'affirmer ma victoire en fin de compte. Et pour ça, elle a des alliés qui sont ses chats. La mère, qu'on n'entend pas loin parce qu'elle est, c'est une Bretonne hein, de l'Orient. La nuit, où la poésie est une arme contre une vie qui n'est pas forcément facile. Alors j'ai fait une espèce de panorama des différentes approches qu'on peut trouver dans la poésie d'aujourd'hui. Une approche plus gaie, plus amusée, et puis des choses qui sont peut-être plus âpres, parce que la poésie se coltine avec le réel. Chacun réagit à sa manière.
Oui. Alors Alain, bien évidemment, tous ces ouvrages sont disponibles en librairie. On peut aussi, n'oublions pas, on peut les commander via le site internet des éditions Rhubarbe.
Tout à fait. En librairie et le site internet ou à l'occasion de salons dans lesquels on peut trouver les éditions Rhubarbe. Par exemple, à la fin du mois, à Dijon, au Printemps des Poètes de Dijon.
Merci Alain pour ces précisions. Alors avant de fermer le chapitre consacré aux publications de poésie des éditions Rhubarbe, est-ce que tu as un poème coup de cœur que tu aimerais lire et partager avec nos auditrices et auditeurs?
Ah là là, la difficulté d'avoir un poème coup de cœur quand on en aurait 10.
Oui.
Bon, je vais te lire un poème du recueil d'Emmanuel Favier, Le soleil vient d'en face. Ça s'appelle Le clochard est là. Le clochard de la rue Dombasle est là. Il écoute sa radio. Chaque semaine, quand je passe devant lui, en route vers le cabinet de psychothérapie, j'entends une bribe de son qui crache. Chaque semaine, c'est une annonce publicitaire pour des travaux de bricolage à domicile. Le clochard rêve peut-être au bricolage qu'il pourrait faire chez lui, sans lever le petit doigt. Chaque semaine, le clochard de la rue Dombasle est là. Que ferais-je s'il n'y était pas, moi qui n'ai connu ni les bancs, ni les guerres? Mais il est là. À croire que lui seul sait à quel point il est là. À quel point chez lui, c'est là. Quand moi, je continue à chercher où c'est, pour moi, là. Voilà, Emmanuel Favier, Le soleil vient en face.
Aux éditions Rhubarbe, un grand merci Alain. Nous allons faire une petite virgule musicale et puis nous te retrouvons juste après pour décliner le sommaire de la revue Des Charges créée par Jacques Morin en 1981. Des Charges connaît un très beau succès, mais on en reparle après la pause musicale. Je rappelle que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion, et nous sommes ensemble jusqu'à midi. On retrouve Alain Quévez après la pause musicale que nous vous proposons.
Oh, tu sais, mon cœur est dans le même état que mes poumons. Tu connais l'odeur de nos clopes incrustées sur nos blousons. Je fume les rumeurs, elles finiront noyées dans ma boisson. Et ça fait des heures que je t'attendais pour une discussion. On s'offrira à boire
soir. On arrêtera les bagarres, on rachètera même le bar, on finira sur le trottoir avec nos pleurs de fumoir, avec nos pleurs de fumoir, avec nos pleurs de fumoir.
Ça fait quelques heures que je me perds dans la forêt de Bourbon. J'ai laissé mon cœur, mais que mon âme, ma pauvre paire de poumons. Je bois même des pleurs, mais tu me regardes d'une bien charmante façon. Si ce soir, ce soir, je meurs, viens me donner la plus extrême des onctions.
On s'offrira à boire pour battre notre peur du soir. On se racontera nos histoires accoudés au comptoir. On arrêtera les bagarres, on rachètera même le bar. On finira sur le trottoir avec nos pleurs de fumoir, avec nos pleurs de fumoir, avec nos pleurs de fumoir.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Un vent de poésie qui souffle en cette fin de matinée sur Radion, puisque nous marquons l'événement à notre manière, ce 24e printemps des poètes, qui d'ailleurs a retenu un thème tout à fait original, éphémère, et nous sommes toujours en ligne avec Alain Quévès, éditeur, créateur des éditions Rhubarbe. Mais Alain, tu es aussi partie prenante d'une revue de poésie qui a une forte renommée, qui s'appelle Décharge et qu'a créé ton camarade et complice Jacques Morin, dit Jacques Mo.
Tout à fait. Alors Décharge, je ne suis qu'une toute petite pièce rapportée dans Décharge, mais j'ai grand plaisir à y participer. C'est donc le 193e numéro de cette revue qui est née en 1981, je crois. Alors le 200e, on peut l'attendre pour les JO de Paris, ce sera vraiment une apothéose.
Oui.
La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un bel objet, hein. C'est 164 pages avec des illustrations en couleur. Dans ce numéro-là, c'est Renaud Alirand qui s'y colle, et ce sont de superbes illustrations à chaque fois. On y trouve bien sûr beaucoup de poésie. Par exemple, un journal de confinement de Jean-Louis Giovannoni. Alors les poètes ne sont pas hors du monde, hein, et la poésie et la période qu'on vient de traverser les a marqués, comme nous tous.
Oui.
Par exemple, ce sont de courtes remarques, hein. Pour l'instant, les corps sur les affiches publicitaires ne sont pas atteints. Laisse rentrer l'air, sans respiration, les mots sont imprononçables. Il y a aussi Alban Jeudy qui est venu à la bibliothèque de Serres il y a quelques années et dont la poésie est consacrée aux chevaux, parce que voilà. Ou encore un dossier sur les poètes français d'ailleurs. Notamment une poète que j'aime beaucoup, c'est Coralie Akiyama, qui vit au Japon et qui nous donne quelques haïkus dans ce recueil. Mais ce qui fait la particularité de Décharge, c'est aussi des chroniques, des réflexions, des anecdotes sur la poésie. James Sacré, par exemple, qui est un grand poète, qui donne là une courte réflexion sur le rebut, le brouillon, les ratés. Tout ce qu'on ne retient pas dans la version définitive d'un poème, mais qui a quand même contribué à le faire naître et qui est quand même présent à l'état de fantôme, on pourrait dire. Ou alors, cette chronique qui est très drôle de Louis Dubos sur l'importance d'un titre. Hein, le titre d'un recueil, c'est souvent le plus difficile à trouver. On a écrit tous les poèmes, on ne sait pas comment s'appellera le livre. On se souvient du fakir qui était enfermé dans une armoire Ikea ou de quelques autres titres de cet acabit-là. C'est certainement quelque chose d'essentiel que de trouver le bon titre qui accrochera le lecteur. Alors, il nous quelques exemples assez drôles. C'est l'ornithorynque, par exemple. Ou traiter de l'art délicat d'écaler les œufs durs. Et ça, ce sont des recueils de poésie.
Ah oui, c'est très original, effectivement. Oui,
oui, oui. Et donc, voilà. C'est, alors, il y a cette mode actuelle qui est au titre long, mais un autre poète, un très très grand poète, qui est Antoine Aimaz, lui, ses recueils sont titrés d'un seul mot. Par exemple, sauf, S-A-U-F. Alors, on peut le comprendre comme sauf à part, hein, à part quelque chose, ou sauf, sain et sauf.
Oui.
Voilà, donc ça c'est Louis Dubos. Il y a également, des critiques de recueil, des notes de lecture, de livres parus, et puis l'actualité de du monde de la poésie. Alors, dans Lyon, l'actualité du monde de la poésie, c'est la Renarde Rouge.
Alors justement, voilà, Alain, tu as interviewé pour la revue des charges donc Joël Brière qui a créé la Renarde Rouge. C'est situé à Aveyron, hein, c'est je crois à une dizaine de kilomètres au sud de Sens. Et donc la Renarde Rouge. Alors la Renarde Rouge, je me rappelle, Joël Brière m'avait expliqué que c'était une référence à René Char, la Renarde Rouge.
Tout à fait, c'est un extrait, mais c'est également, je pense, un clin d'œil à la fois à... D'abord, c'est une renarde. C'est une entreprise qui est née de trois femmes, trois complices. Donc, il y a un côté de revendication, on ne va pas dire féministe, parce que ce serait trop fort, mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes qui ont lancé la Renarde Rouge et qui sont l'âme de la renarde. J'avoue que je ne connais pas exactement la citation de René Char, mais oui, je savais ça.
Voilà, c'est-à-dire que René Char appelle, pendant la résistance, lui qui est dans le maquis, il désigne sa compagne par le terme de renarde rouge, et je crois que c'est tiré c'est même sûr et certain, c'est tiré des feuillets d'hypnose, absolument.
Ah oui, d'accord, oui, oui. Bah écoute, très bien. Donc, alors Joël, c'est un petit peu notre modèle. Hein. Il y a aujourd'hui deux maisons d'édition dans Lyon, hein, Rhubarbe deux éditions poétiques, hein, Rhubarbe et les Blancs Volants. Et Joël, c'est notre aîné, notre
précurseur.
Oui, voilà. Et puis, pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est une maison qui a 28 ans d'existence, de persévérance. Et puis, ce sont de beaux livres, sur un papier superbe.
Avec un beau grammage et illustré très souvent, de très très belles illustrations.
Oui, des ouvrages toujours illustrés, presque toujours, même s'il y a quelques exceptions, presque toujours en bichromie, parce que la renarde, elle est rouge, aussi parce que les livres sont en rouge et noir, hein, texte noir et puis des illustrations en rouge. Alors elle m'a expliqué que c'était au départ pour des raisons financières, puisque les livres étaient tirés en fait et que la bichromie est un peu moins chère que la quadrie, mais comme souvent, d'une contrainte, on fait une force. Et alors il y a quoi ? Il y a 120 titres parus pour les deux tiers de la poésie, mais ça fait 47 auteurs, ça fait 26 illustrateurs qui ont travaillé sur cette couleur rouge.
Oui.
Hein ? Et alors, les auteurs de la Renarde sont au départ des auteurs proches, parce que c'est une entreprise artisanale qui a démarré vraiment, on pourrait dire, dans un garage ou dans une cuisine. Et puis après, il a fallu les faire fabriquer, les vendre, prendre sa tiquine et puis aller démarcher, aller faire. C'est quelque chose qui a vraiment démarré de façon très artisanale, et c'est aussi tout son mérite.
Mais c'est une maison. Pardon, Alain, c'est une maison d'édition associative.
Associative, absolument, parce que Joël étant fonctionnaire, comme enseignante, il n'était pas possible à l'époque, le statut d'auto-entrepreneur n'était pas possible. Donc il n'y avait que la forme associative qui était possible pour avoir une activité à côté de son travail d'enseignante. Mais la forme associative, elle témoigne aussi d'une volonté justement de mise en commun, et les premiers auteurs étaient partie prenante aussi de la maison. C'est vraiment une œuvre collective. Alors parmi les auteurs, il y a Christine Billard, qui est bien connue dans Lyon, à Auxerre.
Oui, qui a été longtemps travaillé à la bibliothèque départementale de Lyon.
C'est ça, et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'organisation du festival des Maudits, par
oui.
exemple.
Mmh.
Mais aussi, on peut Yves-Jacques Boin, ou Colette Andrion, Lucette Devigny également, Claire Delbar, donc, qui est l'éditrice de l'Atelier des Noyers maintenant.
Absolument.
Anne Lemaître également. Mais, alors, Éric Poulet également, qui a publié ses recueils de poésie chez ses premiers, à la Renarde Rouge. Jacques Morin lui-même. Mais il y a également, alors petit à petit, au fur et à mesure que la maison grandit et que sa réputation s'affirme et que son image et sa ligne éditoriale s'affirme, il y a des auteurs qui viennent de plus loin et d'ailleurs. Et ça n'est pas une maison d'édition locale. Je pense à, par exemple, à Jean-Luc Malino, que beaucoup d'enfants ont dû croiser dans la scolarité, ou Jacqueline Helt aussi, ou qui d'autre encore, Paul Bergès, qui sont donc des auteurs qui ne sont plus d'origine bourguignonne, mais qui se sont associés, qui sont devenus partie prenante de la maison, et Joël me disait qu'on n'entre pas par hasard, voilà, on envoie son manuscrit pour être publié à la Renarde Rouge comme juste un acte de consommation. On entre dans une démarche, dans une amitié, dans quelque chose de plus fort.
Hein. Oui.
C'est pour ça aussi que je disais que elle nous guide, elle nous a guidés dans ce travail. Une maison d'édition, c'est une maison. C'est une maison, et donc avec des invités, avec des gens qui font la vaisselle, avec des gens qui donnent un petit coup de main quand il s'agit de sortir les assiettes pour les amener au jardin pour faire un pique-nique de poésie. Pourquoi je dis tout ça au passé, au fait, c'est parce que Joël Brière a décidé, après 28 ans, de tourner la page. Donc le 31 mars, dans quelques jours, la Renarde Rouge, elle rejoint sa tanière et elle commence une autre vie. Hein, c'est pour ça aussi que c'est l'actualité du moment à Auxerre.
Donc la maison d'édition subsiste ?
Alors, elle ne subsiste pas, c'est-à-dire que là, ce sont les tout derniers jours où vous pouvez vous procurer les ouvrages. Après, non, il n'y aura plus de commercialisation. Hein. La maison s'arrête. Hein, comme c'est une association, l'association a voté sa dissolution. Donc, j'imagine que certaines librairies auront des ouvrages en stock, que certains auteurs continueront à les diffuser sur les salons ou des choses comme ça, mais non, l'activité commerciale s'arrête.
Après donc plus d'un quart de siècle d'existence.
Après plus d'un quart de siècle, oui. Et c'est une... De toute façon, il y a bien un moment où une maison d'édition s'arrête. Dans le pire des cas, elle s'arrête pour des raisons dramatiques. Mais il y a aussi des façons heureuses de tirer un trait, de faire un bilan. Alors, un bilan des joies, des peines, des difficultés, mais surtout un bilan des réussites et d'un quart de siècle de poésie. Donc...
Oui.
Après tout, il vaut mieux s'arrêter comme ça et puis repartir vers d'autres aventures, puisque Joël n'est pas seulement éditrice, elle est elle-même auteure et illustratrice. Donc je ne doute pas qu'elle continue d'écrire et d'illustrer.
Merci Alain Quévès d'avoir égrené pour nous le sommaire de la revue de poésie des charges, le dernier numéro, donc le numéro 193 de ce mois de mars 2022, disponible en librairie ou alors sur commande via le site internet de la revue de poésie des charges qui, je le rappelle, a été créée en 1981 par Jacques Morin.
J'ajoute en deux mots, il y a la revue des charges et il y a tous les ans quatre recueils de poésie séparés qu'on peut également, donc dans une collection qui s'appelle Polder, et qu'on peut également acquérir avec la revue ou à part de la revue. Vous trouverez tout ça sur le site internet de Décharge.
Merci beaucoup Alain, bon printemps
merci
des poètes et puis bon printemps tout court et merci de ton intervention par téléphone en cette fin de matinée dans l'émission littéraire de Radion.
Merci à toi Yannick et longue vie à l'émission littéraire de Radion.
Merci Alain, au revoir.
Au revoir.
J'ai retrouvé le contrôle de mon esprit. Tu es dans mon lit, j'ai déchiré les pages de notre histoire. Et j'ai brûlé ce qu'il reste des vannes laissées dans mon placard. Et qui pourrait m'en vouloir, tu sais, tu n'étais qu'un fardeau. De rouille dont tu laisses ta marque, et tu es un gâteau. Et comptais-tu les fois passées chez elle, à répéter les vases et viens. Les vagues qui m'emportent vers la fin. Tu sais que tu ne me mérites pas. Quand le jour se lève sans émoi, j'espère que tu penses un peu à moi. Mais tu peux crever là-bas. C'est dur mais c'est mieux comme ça. Pourquoi pensais-je que tu me serais fidèle? Tu as sauté les étapes, les lits de peur et puis d'ennui. Et si le bruit d'une planche qui roule m'émeut, ce n'est ni pour toi ni notre histoire, c'est parce qu'on est plus deux. Et qui pourrait m'en vouloir, tu sais, tu n'étais qu'un fardeau. Le ventre lourd, tu ne bandais plus de force liquide en trop. Et comptais-tu les fois passées chez elle, à répéter les vases et viens comme les vagues qui m'emportent vers la fin. Tu sais que tu ne me mérites pas. Quand le jour se lève sans émoi, j'espère que tu penses un peu à moi. Mais tu peux te lever là-bas. C'est dur mais c'est mieux comme ça.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Eh bien, comme je l'avais annoncé dans le sommaire de notre émission littéraire Wagon Livre, j'ai le grand plaisir de retrouver Bruno Doucet qui est en ligne avec nous. Bonjour Bruno Doucet.
Bonjour.
Alors Bruno Doucet, on s'était rencontré à la fête du livre d'Autun en 2017
oui.
Et puis beaucoup plus longuement, c'était à Tonnerre. Vous y étiez venu y parler de votre recueil de nouvelles cette fois-ci parce que vous êtes, alors
exactement.
Je vais vous présenter un peu, c'était la Cité de Sable aux éditions Rhubarbe, une maison d'édition d'ailleurs
oui.
installée à Auxerre. Nous avons eu il y a un bon quart d'heure Alain Quévès en ligne que vous connaissez
d'accord.
bien.
Très bien, qui fait un merveilleux travail.
Alors Bruno Doucet, vous êtes poète et éditeur de poètes. Et puis je dois quand même préciser que vous avez dirigé une prestigieuse maison d'édition française. C'était les éditions Segers, qui avaient été fondées par Pierre Segers. Et puis on ne reviendra pas sur le rachat de cette maison d'édition et sa disparition par le groupe espagnol Planeta. Et puis vous avez volé de vos propres ailes. Et en 2010, vous avez créé votre propre maison d'édition. Les éditions Bruno Doucet.
Mmh, alors,
cher Bruno Doucet, vous êtes une figure essentielle, vous êtes un passeur de poètes, un éditeur de poètes, et en ce printemps, 24e printemps des poètes, la maison Bruno Doucet a quelques trésors à partager avec les amoureux de poésie.
C'est vrai. C'est tout à fait ça.
Alors, parlez-nous, s'il vous plaît, Bruno Doucet, de l'éphémère 88 plaisirs fugaces. C'est une anthologie que vous avez établie avec Thierry Renard.
Avec Thierry Renard, effectivement. Thierry Renard, qui est mon partenaire de travail pour ces anthologies du Printemps des Poètes depuis 2018 et qui se trouve être à Lyon. Il dirige l'espace Pandora à Lyon et une structure associative qui fait de lui une espèce d'agitateur de la poésie au bon sens du terme. Voilà.
Alors comment doit-on aborder, oui, ce thème de l'éphémère, c'est tout à fait original.
Alors ce thème a été choisi par Sophie Nolot, directrice artistique du Printemps des Poètes. Il fait suite, et vous verrez qu'elle constitue une sorte d'abécédaire au thème de l'ardeur, puis de la beauté, puis du courage, puis du désir l'an dernier. Et cette année, nous sommes à la lettre E, celle de l'éphémère. Bon, c'est un thème que je trouve très très intéressant, parce que c'est un thème qui nous ouvre aussi aux pratiques artistiques. En vous disant cela, je songe à tous ces artistes de l'éphémère, comme par exemple Ernest Pignon-Ernest, qui est présent dans notre livre avec des photos qui représentent ces installations éphémères, à partir de ces dessins qu'il appose sur les murs des cités, des villes où il passe, que ce soit à Rimbaud, à Paris ou à Charleville-Mézières, que ce soit Pasolini dans les rues de Naples, vous voyez, ou des affiches qu'il a déposées sur les murs et dont il accepte finalement que le temps les abîme, que des gens puissent venir les taguer, que d'autres affiches viennent parfois les recouvrir. Donc on a voulu ouvrir ce livre aussi aux pratiques artistiques de l'éphémère, et puis on a envisagé un livre qui permet d'appréhender au fond toutes les significations de ce mot. Et pour ce faire, on a choisi une structure poétique que tout le monde connaît, que tout le monde peut comprendre, qui est le principe de l'acrostiche. Vous savez, oui. On prend un prénom, un mot, et à chaque lettre de ce mot, eh bien, on va associer un vers ou un thème. Et pour nous, nous avons décliné le terme l'éphémère avec les 9 lettres de ce mot, et notamment les 4 voyelles identiques, les 4 E du terme éphémère, ça c'est assez étonnant, eh bien on leur a associé sur le mode d'un acrostiche différentes thématiques. Donc, alors si vous voulez, je peux vous les donner. Le L apostrophe de l'instant, le E de envol, pour évoquer ces insectes qu'on appelle les éphémères, qui ne vivent que quelques heures ou quelques jours, le P de passion, pour parler des amours éphémères, le H d'humanité, parce que, au regard des temps géologiques, la vie humaine, si longue soit-elle, est une étincelle d'une grande brièveté. Et puis on continue avec le E de enfance, le M de mémoire, le E de énigme, le R de rêve, et on s'arrêtera au E d'éternité.
Oui.
C'est une façon, si vous voulez, de déployer tel un origami toutes les virtualités sémantiques d'un mot, d'un concept, et de pouvoir au fond y associer des poètes venus de tous les horizons, des contemporains, des hommes, des femmes. Les femmes sont d'ailleurs majoritaires dans ce livre, et des poètes qui viennent des 5 continents, mais qui ont tous pour point commun de s'être attelés à cette tâche qu'est l'éphémère. Alors, tous les textes rassemblés parlent de l'éphémère.
Je l'ai rappelé au début de notre échange, la maison d'édition Bruno Doucet est née en 2010. Vous êtes un des plus grands éditeurs de poésie française et francophone.
Oui, moi je me suis donné comme tâche au fond d'être la maison qui accueille les poètes du monde. Et vous le savez, nous les publions, ces poètes, autant que faire se peut dans leur langue d'origine. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient tout particulièrement à cœur. Et vous avez dans cette anthologie, eh bien, des gens qui viennent d'Amérique latine. On a 3 auteurs latino-américains, dont par exemple Carmen Yanez, qui est une poète qui était l'épouse de Luis Sepúlveda. Elle est moins connue que son mari, mais elle a une poésie magnifique, une poésie de résistance. Et il y a un texte très très beau sur les disparus de la dictature, les femmes disparues sous la dictature de Pinochet. Alors, elle est présente dans ce chapitre consacré à la mémoire. Ou bien, vous avez des poètes qui viennent du Maghreb, du Moyen-Orient, de Syrie, comme Ala Mohammed, avec un poème intitulé « Les hirondelles se sont envolées avant nous », qui évoque l'exil, et que nous avons placé dans la section intitulée « Envol ». Puis vous avez des poètes qui viennent d'Asie, notamment des haïkus japonais pour dire l'adieu à ceux qui viennent de disparaître, donc des poèmes qui veulent éterniser des fragments de vie, des poètes coréens. Et puis nous sommes allés même jusqu'au territoire lointain et souvent méconnu de l'Océanie. Alors par exemple, on a une grande voix de la poésie néo-calédonienne qui s'appelle Ima Sango, ou une poète la plus connue de Polynésie française qui s'appelle Flora Orima de Vatine. Alors ce sont des voix que nous aimons faire découvrir et nous nous définissons au fond comme des passeurs de culture.
Et je crois aussi, Bruno Doucet, que vous avez publié des chamanes.
Oui, par exemple, une poète chamane amérindienne, Inou, qui vit dans le Grand Nord du Québec, qui s'appelle Rita Mestokocho, et que nous avons publié dans sa langue d'origine, en Inou Aïmoun. Imaginez, Yannick, il n'y a que 10 000 personnes au monde qui parlent encore cette langue.
Oui.
Et nous avons publié un livre qui a eu un immense succès, certes préfacé par Jean-Marie Leclésio, le prix Nobel de littérature, mais la force des textes de Rita Mestokocho a aussi fait la différence et les gens ont découvert une poésie très éloignée de ce qu'ils ont pu apprendre à l'école ou à l'université, vous voyez, en France, mais qui ouvre des horizons. Au fond, ça me permettrait de vous donner une définition de la poésie. Le poème est ce qui élargit le monde. Le poème élargit le monde de son sourire.
Oui, c'est très joli. Enfin, en tout cas, vous ouvrez la...
Les portes et les fenêtres dans les murs qui nous enferment.
Oui. Et enfin, vous ouvrez vraiment la porte de la poésie au plus grand nombre. Je sais que vous êtes très attaché à ce qu'on appelait, c'est moins présent aujourd'hui, l'éducation populaire.
Ben je pense, hein, oui, c'est pas un gros mot que de parler d'éducation populaire. Cet héritage qui nous vient au fond de la résistance, de la libération, a été un peu galvaudé, il est malmené aujourd'hui. Mais moi je pense, je fais partie de ceux, et je ne suis pas le seul, qui pensent qu'il y a une espèce d'urgence à rassembler deux France, une France populaire et une France savante. Il y a une ligne de faille qui traverse notre pays depuis la nuit des temps. Elle était terriblement présente au Moyen-Âge. Il y avait deux langues au Moyen-Âge, vous savez. Il y avait le bas français, ce qu'on appelle l'ancien français pour les gueux. Et puis il y avait le latin ou le bas latin pour les lettrés. Et mais aujourd'hui, ça continue. Mais regardez, par exemple, vous êtes poète si vous habitez dans les milieux germains de Pratin, et vous êtes slameur si vous êtes de l'autre côté du périphérique.
Oui.
C'est un peu terrible. Or, il y a de multiples voies d'expression de la poésie ou de la littérature. De multiples voies. La poésie, elle se conjugue au pluriel et aussi au féminin pluriel. Ne l'oublions pas. Et bien souvent, malheureusement, la clé des études littéraires et parfois de l'édition est encore tenue par la main d'un homme. Alors, nous sommes vraiment... Nous faisons cet effort d'ouverture au plus grand nombre, en faisant dialoguer les générations, les cultures, les langues, mais aussi en faisant entendre les voix des poésies féminines. Et j'ai l'impression, en vous disant cela, de réparer une espèce d'injustice, de tort qui a été trop longtemps pratiquée.
Alors je rappelle que les éditions Bruno Doucet disposent d'un site internet qui est aussi un site marchand. On peut acheter les recueils que vous publiez. Toujours une vingtaine de livres par année?
C'est ça. Avec les deux années Covid, là, on a un tout petit peu réduit la voilure pour éviter de casser. On a préféré plier que casser. Donc on a publié cette année 17 livres, l'an dernier 16. Mais enfin, on va repartir, je l'espère, sur une vingtaine de titres avec des anthologies. Des recueils, des premiers recueils avec des jeunes auteurs. Par exemple, il y a deux ans, nous avions publié, en 2020, une jeune franco-grecque qui s'appelle Katerina Apostolopoulou. Personne ne connaissait son nom. Et deux ans après, près de 3000 exemplaires de son livre ont été vendus. Elle a obtenu des grands prix littéraires et aujourd'hui, elle est poète à part entière. L'an dernier, une jeune femme franco-tunisienne, Nawel Ben Krayem, publiait chez nous son premier recueil, alors qu'elle est déjà fort connue dans le monde de la chanson, d'influence hip-hop, et elle avait déjà sorti 4 albums, dont 2 ou 3 chez Universal, donc des très grandes maisons de disques. Et puis cette année, nous ferons paraître dans quelques jours, début avril, le premier recueil d'une jeune française comédienne qui s'appelle Laura Lutard, voix magnifique. Et donc ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Et puis en même temps, on donne à entendre aussi, parfois, de façon très inattendue, des voix du passé. Alors, j'avais peut-être eu l'occasion, il y a quelques années, à Autun, de vous parler du grand poète grec Yannis Ritsos, que nous aimons infiniment. Et cette année, c'est deux voix de la poésie française, originaires de la région nantaise, que nous faisons entendre, Hélène et René Guicadou. Et si vous me permettez, je voudrais vous dire une chose extraordinaire. René Guicadou est né en 1920. Il a écrit peut-être la plus belle part de la poésie lyrique française du XXe siècle, mais tout cela dans une vie très brève, puisqu'il est décédé à 31 ans, en 1951. Et figurez-vous que dans les années 70, les œuvres poétiques complètes de René Guicadou ont été publiées aux éditions Segers sous la forme d'un très gros volume de près de 600 pages, avec le titre « Poésie la vie entière, œuvres poétiques complètes ». Or, nous venons de faire démentir cette appellation, puisque nous avons découvert 40 poèmes inédits de René Guicadou, que nous venons de publier dans un livre magnifique qui s'intitule « Et le ciel m'est rendu ».
Et vous publiez aussi les poèmes d'Hélène, d'Hélène Cadou, son épouse.
En même temps, nous publions un livre d'Hélène Cadou qui s'intitule « J'ai le soleil à vivre » et qui rassemble 120 poèmes inédits d'Hélène. Donc, de sorte que les deux livres, quand on les voit côte à côte, l'un bleu, fond bleu, titre jaune, l'autre fond jaune, titre bleu, les couleurs se répondent, sont inversées, mais quand on regarde ces deux livres mis côte à côte, on lit une seule et même phrase. J'ai le soleil à vivre et le ciel m'est rendu.
Oui.
Voilà, je fais un travail merveilleux. Hein. Je veux dire, il n'est pas facile ce travail d'éditeur, mais il est merveilleux parce qu'il me permet d'être en prise en permanence avec la beauté des choses, la beauté des textes. Et puis c'est un métier aussi de dialogue, de rencontre, d'invention aussi, de l'avenir. Parce que ce que nous faisons, au fond, c'est essayer, on le voit bien avec Hélène et René Guicadou, de donner un avenir au passé. C'est ça notre l'enjeu vraiment important, il est là.
Et puis il faut dire que René Guicadou, un peu comme Rimbaud, a publié très jeune, dès l'âge de 17 ans, les Brancardiers
oui,
de l'Aube.
Les Brancardiers de l'Aube, absolument, magnifique texte, magnifique. Il avait 17 ans et il est mort à 31 ans.
Oui.
Et il laisse une œuvre splendide, vibrante d'émotions, probablement les poèmes lyriques, les poèmes d'amour les plus beaux de la littérature française, peut-être les plus authentiques aussi.
Et puis aussi, c'est une poésie très, très végétale qui montre que la vie à la campagne peut être heureuse aussi.
Exactement, tout à fait. C'est exactement cela. Oui, vous avez raison, c'est une poésie de la réconciliation avec le monde. Ça, c'est quelque chose de vraiment très, très touchant, en effet.
Et puis, existence brève, comme vous l'avez dit, Bruno Doucet, hein, René Guicadou est mort le 21 mars 1951, c'était d'ailleurs le premier jour du printemps. Et
exactement.
Hélène Cadou est morte, elle, le 21 juin 2014. C'était le premier jour de l'été. C'est incroyable.
Oui, oui. Je pourrais vous dire un court poème, si vous le voulez.
Volontiers, Bruno.
C'est possible.
Absolument.
Je pense à un court poème que j'ai en tête et qui se trouve être le dernier du livre de René Guicadou. Voici ce qu'il dit. Alors, on l'a trouvé, là, sur des brouillons. Et il faut savoir une chose, c'est que René Guicadou détruisait les brouillons des poèmes qu'il ne voulait pas voir publiés. Et donc, ces textes-là ont été conservés durant toute la vie, toute son existence brève, mais aussi pendant les 60 années qui ont suivi, où Hélène a préservé ce patrimoine des œuvres de son mari, laissant pour après les textes que nous publions maintenant.
Oui.
Alors voilà le dernier poème. Laissez-moi parler d'elle avec des mots très simples, car elle est douce et innocente comme une sainte. Elle entrerait pieds nus dans des rondes d'enfants s'il y avait encore des jeux et des enfants, si l'on pouvait courir à travers le village, la jupe déchirée et des pleurs au visage. C'est magnifique.
Oui. Mais voilà. Je voudrais aussi, alors Bruno, pour nos auditeurs et pour vous-même, ce vers de René Guicadou que j'aime beaucoup, je crois que c'est aussi une poésie de la fin de sa vie, très jeune, hein, je rappelle, il est mort à l'âge de 31 ans. « Ô père, j'ai voulu que ce nom de Cadou demeure comme un bruissement d'eau claire sur les cailloux. »
Mais c'est magnifique.
Oui.
Oui, c'est formidable. Hein, on trouve ça dans « Poésie, la vie entière ». Et je vais vous faire une petite confidence. Lorsque j'étais adolescent, René Guicadou a complètement ouvert mes horizons. J'ai découvert la poésie avec lui. J'ai vécu mes premières passions amoureuses avec la poésie de Cadou, et je m'étonnais que mon nom commence comme finisse le sien. Je me disais, il y a en moi un reste de Cadou.
Ah oui.
Cadou, Doucet, puis j'ai envie d'ajouter un troisième mot qui est caducé, l'emblème de la médecine, parce que je crois que cette poésie est si belle qu'elle soigne les cœurs. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Et puis je pense aussi au très beau poème d'Hélène. Je serais presque tenté de vous en dire un aussi.
Volontiers, si Bruno, avec plaisir.
Alors, là, je ne les connais pas par cœur, donc j'ai besoin d'aller chercher un texte que nous avons publié, magnifique, d'Hélène Cadou. Une porte, entre ici et là-bas, ne s'est jamais refermée. Tu vas, tu viens, avec la mer, avec les grandes marées du cœur. Si un jour tu ne revenais plus sur ce rivage, je saurais que la mort, lasse d'attendre, se dresse juste derrière mon épaule, prête à jeter la clé dans la nuit sans retour.
Merci Bruno Doucet d'avoir apporté du printemps à travers ces lectures et cette offre poétique que l'on retrouve donc aux éditions Bruno Doucet sur votre site internet, mais également en librairie.
Merci infiniment d'être aussi passeur de poésie et d'enthousiasme. Merci à vous.
Eh bien, bon congé de fin de semaine, Bruno Doucet, et merci de nous avoir offert de votre temps. Mais je sais que vous êtes un passionné et j'espère vous retrouver prochainement en face à face pour parler des nouvelles publications de votre belle maison d'édition. Merci Bruno Doucet.
C'est parfait. Merci à vous. À bientôt.
Notre wagon livre touche à sa fin, un wagon livre spécial 24e printemps des poètes. Si vous en avez manqué le début d'ailleurs, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site d'archives via internet sur le www.yannickpetit.fr. Avant de nous quitter, je voudrais juste partager avec vous cette citation du poète Vladimir Mayakovsky. Il nous faut arracher la joie au jour qui file. Très bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 2 avril, toujours à 11h sur Radio. Nous serons avec Richard Fussner qui signe Le Petit Fussner, le dictionnaire futile et cependant indispensable de la langue française, paru aux éditions du Séquoia l'année dernière. Richard Fussner est sommelier international, ancien chroniqueur vin à la Tribune de Genève, et il est actuellement le directeur du château du Clos de Vougeot en Côte d'Or, entre Beaune et Dijon. C'est un passionné de littérature, d'humour et de lexicologie qui nous accompagnera la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission. Bon printemps des poètes. Rendez-vous samedi prochain à 11h, toujours sur Radion. Au revoir et à très bientôt.